Des grands champions, on connaît précisément leur carrière, leurs exploits, leurs records, mais pas vraiment l'autre côté de leur médaille d'or. Et bien souvent, c'est les petites histoires derrière les athlètes qui leur permettent d'écrire leur grande histoire. Dans la 8e saison de la série Friends, Joey réalise un exploit incroyable.
Hé, regarde ça, c'est vraiment incroyable. Joey arrive à retenir sa respiration depuis bientôt 4 minutes.
Super impressionnant, sauf pour notre invité du jour qui peut tenir 7 minutes sans forcer. Champion épisode 6 avec l'apnéiste Arnaud Giraud.
Comment est-il ? Un champion du monde.
Champion du monde !
Il est champion olympique !
Champion, mon frère !
Question pour un
champion du monde.
We are the champions.
Ce qui m'intéresse, ce sont les super champions.
Salut Arnaud. Alors déjà, est-ce qu'on peut se tutoyer?
Oui, on peut.
Bon. Alors, Arnaud, pour te présenter, donc t'es un apnéiste, peut-être le plus jeune apnéiste français. T'as battu en 2 ans 2 fois le record du monde de plongée.
C'est vrai.
Alors, en septembre dernier, c'est 115 ou 112 mètres le
112.
Record 112.
Oui. Pendant 2 mois, juillet-août, j'ai monté une équipe autour de moi à Nice et on s'est régalé pour faire ce record parce qu'il n'y avait pas de compétition à côté.
OK.
Et il fallait faire 111. Sauf que les 2 fois où je l'ai tenté, ben, je n'ai pas réussi. Alors, il y a un protocole à faire, il faut faire le signe OK et dire I am OK. Moi, les 2 fois, j'ai fait l'inverse. T'imagines ?
Parce que t'étais...
Mais, t'es là, t'as 20 personnes avec qui t'as bossé pendant 2 mois, 3 mois, tout le monde a la pression, tout le monde est super content d'en arriver parce qu'on sait que ça va bien se passer.
Ouais.
Et puis, tu fais une bêtise trop... Enfin,
c'est quoi, parce que t'es défoncé quoi, quand tu remontes ou...
Non, c'est parce que tu penses faire vite, tu as envie que l'aventure termine.
Ah.
T'as envie de te dire, bon, ça y est, c'est fini en fait. Et puis, tu inverses le protocole.
Oh.
Ça, la première fois, j'ai inversé le protocole.
Et juste
deuxième,
si t'inverses, ils te disent non, c'est pas bon.
C'est fini. Disqualifié.
Et alors, c'est combien de temps tu dois rester en apnée pour aller à 112 mètres? Je me rends pas compte de...
Moi, j'ai mis 3 minutes 24.
À descendre.
À descendre et remonter. Donc, c'est assez rapide.
Ah, tu fais tout en 3 minutes?
Ah,
oui.
Et c'est à peu près la moitié du temps pour la descente.
Ok.
En gros, le temps, il sert pas à grand-chose.
Bah non, c'est peu importe le temps, non?
Mais il sert à la partie sécurité. Si l'apnéiste, il a 10 secondes de plus que son temps habituel, eh ben là, on met un protocole en place pour...
Ouais, ça veut dire qu'il a des problèmes à remonter.
Voilà.
Ouais. Et puis surtout, il y a une histoire de... Faut pas remonter trop vite, non? Parce qu'il y a des paliers, tout ça.
Chez nous, l'avantage qu'avec la bouteille, ouais, on n'a pas de palier de compression.
Ah, il n'y a pas de palier?
Ouais, on peut remonter vraiment. Et tu me vois dans la vidéo, là, sur mon Instagram,
ouais,
je remonte à fond. Parce que j'ai les cannes qu'il faut depuis toujours.
Ah, cela dit, dans le Grand Bleu, il remonte avec un ballon carrément.
Oui, oui, voilà.
Il y a ça ou pas? Non, pas non plus, ça n'existe pas.
C'est interdit cette discipline maintenant.
Okay.
Alors, l'apnée, elle est en 3 parties. Le ouais. Grand Bleu, on descend avec un plomb de 30 kg, on remonte avec un ballon gonflé d'air.
Ouais.
Beaucoup d'accidents mortels, mais interdites en compétition.
D'accord.
En 96, premier championnat du monde. Comme par hasard, ma date de naissance, au ouais. passage, je suis poisson. À partir de là, donc le sport en compétition, l'apnée, elle a 24 ans et on n'a eu qu'un seul décès. Par exemple, en équitation, en saut d'obstacle, en compétition, je crois qu'il
y a plus de décès en saut d'obstacle qu'en apnée.
En une année, une fois, il y a eu 11 morts. En une seule année.
En saut d'obstacle?
Oui.
Ah ouais?
Juste le cheval qui tombe sur
Iquidia, c'est Extreme Sport Channel.
C'est ça.
Comment, quand t'es gamin, t'arrives à te dire, genre, je veux faire de l'apnée? Enfin, on a tous fait.
Je veux arrêter de respirer.
Dans notre lit.
C'est
ouais,
ça.
Mais. Enfin, dans notre lit, dans notre bain plutôt, tu commences à faire de l'apnée.
Alors,
mais toi, tu t'es dit, genre, j'adore ça.
C'est rigolo, parce que j'ai jamais joué à l'école à qui c'est qui tient le plus longtemps. Ou j'ai jamais.
Sérieux?
Ouais.
Ah
bizarrement,
bon
j'ai découvert l'apnée avec mon père dans les calanques. Et du coup.
Ton père a fait de l'apnée aussi? Enfin, il est apnéiste.
Il faisait de la chasse sous-marine.
Ok.
Il m'a initié et il a vu que je descendais plus profond que lui à un moment et il s'est dit bon, on va faire de l'apnée et donc il m'a appris comment faire l'apnée avec un câble et une profondeur délimitée dans le bleu total. Et du coup, quand je suis arrivé à ce moment-là, j'avais 16 ans, en plein mois de février, l'eau elle était gelée à Marseille et j'ai ouvert les yeux sur un monde qui était plus intérieur, on va dire. Parce que quand j'ouvre les yeux à ces profondeurs-là, il n'y a rien autour. Il n'y a pas de poisson, il n'y a aucun sujet sur lequel se raccrocher.
Ah, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien?
Il y en a, mais...
C'est des trucs bizarres, non, quand c'est
ouais,
quand
ça peut
profond,
devenir bizarre, ouais. Mais en tout cas, ça a fait une sorte d'effet miroir et j'ai pu vraiment apprendre qui j'étais. Grosse difficulté scolaire avec la dyslexie, j'étais un peu timide aussi.
Ouais.
Et puis l'apnée, au contraire, ça m'a développé...
Pourquoi? C'est quoi? C'est genre tu fais sous l'eau, t'es en mode psychanalyse?
Sous l'eau, ben... Ouais. Tu
c'est
te concentres à fond
plus
sur
son,
ce que tu ressens au moment présent. Donc, tu as tes souvenirs qui reviennent. Et puis, tu te rends compte un peu plus de tes capacités. Surtout à ce moment-là, je manquais un petit peu de confiance en moi.
Ouais.
Et puis, le fait de se dire, bon, mais je suis à 30 mètres, j'ai 16 ans, et puis, j'ai pas envie de respirer et je suis bien. Tu te dis, ouais, ben en fait, c'est ça que j'ai envie de faire tout le reste de ma vie, quoi.
Et alors, donc, plus jeune, du coup, donc avant 16 ans, est-ce que tu étais fan de sport? Tu avais des modèles? Enfin, d'ailleurs, de sport, pas forcément. C'est qui tes modèles, les mecs qui te faisaient rêver quand tu étais petit?
Alors, c'est rigolo, parce qu'on m'a souvent posé la question. Et puis, en fait, petit, je regardais pas vraiment le sport. J'étais vraiment dans ma bulle, quoi. Je regardais ni le sport, je m'intéressais...
T'étais pas pour l'OM, t'es à Marseille.
Même pas, je connais même pas le foot, je connais même pas un joueur. Je connais Zidane, si tu veux, Mbappé peut-être, mais je suis complètement déconnecté
du foot. Putain, vous êtes pas nombreux à Marseille, hein, pote.
Ouais, je sais. Quand je suis dans les taxis, ils me disent « Alors, Marseille et tout », parce que j'ai un peu l'accent, et je sais pas, moi. Et puis, en fait, mes modèles, c'est venu un peu plus tard, quand j'ai commencé à faire des résultats où il fallait que je trouve des inspirations annexes. Federer. Parce que, voilà, au niveau résultat, au niveau démarche sur le long terme, comme c'est un sport de maturité, il me faut une démarche sur le long terme. Et puis le personnage est juste magnifique.
Ouais,
Zidane, pour son caractère, pour l'image que les Français ont de lui aussi, ouais. Pour le côté familial surtout, qu'on retrouve aussi chez Federer. Ma famille, c'est mes coachs, c'est mes agents, ils sont un peu tout pour moi aujourd'hui. Je suis assez autodidacte dans mon sport, mais grâce à eux aussi. J'ai pas besoin d'avoir 40 000 personnes autour de moi, mais vraiment ma famille et des personnes de confiance, ça suffit.
Quand est-ce que tu t'es dit, c'est une question qui revient souvent, que je pose à tout le monde, la première fois où tu prends conscience que tu peux être un champion, que tu peux être un champion, que tu es meilleur que les autres. Est-ce qu'il y a un moment clé où tu t'es dit, en fait, je sens que...
Ouais. C'était, j'avais 18 ans, j'étais à Nice, et ce jour-là, il y avait l'équipe de France qui s'entraînait pour les championnats du monde, et ils étaient basés à Nice. Et du coup, je m'entraîne avec eux, et tout le monde annonce ses profondeurs avant d'aller à la mer. Donc chacun annonce ses profondeurs et tout, et moi, j'avais 18 ans, j'avais une combinaison complètement trouée, on me faisait des blagues comme quoi je m'étais fait attaquer par un requin et tout, je débarquais de Marseille, du coup, l'image marseillaise, blabla... Et là, j'annonce 70 mètres en bipalm. La bipalm, c'est une discipline qui a été un peu oubliée parce que ça a été dépassé par la monopalm.
Oui.
La monopalm, c'est le côté dauphin et c'est beaucoup plus facile que la bipalm. C'est-à-dire qu'on peut facilement aller à 100 mètres, on fait moins d'efforts.
Ah,
la
ouais.
voilure est plus grosse, tu brasses beaucoup plus d'eau. Et du coup, moi, j'étais le seul avec ma bipalm, genre en mode années 80.
Le gars à l'arrache.
Et j'annonce 70 mètres. Tout le monde me regarde de travers, mais qui c'est ce jeune? Personne ne me connaissait, mais moi je les connaissais un petit peu par rapport à leurs résultats. Et il y a Guillaume Néry qui vient vers moi, il me dit t'es sûr et tout, moi je te dirais de faire plutôt 69. Parce que souvent les chiffres ils peuvent être dangereux dans cette discipline. Devant moi, j'ai 18 ans, et j'ai quand même Guillaume Néry qui a fait plein de records du monde, qui a fait des choses magnifiques aussi sur la partie artistique. Et du coup, en gros, je ne m'en rends pas compte à ce moment-là, mais je lui tiens un petit peu tête en lui disant « Non, non, mais je suis sûr que je vais faire 70 mètres. » Mais j'étais sûr de moi. Et autour de moi, on me regardait en me demandant « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et du coup, ce jour-là, la mer est démontée. Et Guillaume, je crois qu'il faisait plus de 100 mètres. Il tourne avant l'objectif. Et tous les autres de l'équipe de France, ils tournent avant l'objectif où ils ne vont pas à leur profondeur. Moi, je suis le dernier à passer parce que je suis le plus jeune. Et bon, ouais. C'est normal, je n'ai pas la priorité par rapport à eux qui partent au championnat du monde. Et là, je descends tout doucement à ce moment. Avant, je descendais tout doucement, je prenais mon temps. Et puis, ils se disent, mais tard, c'est super long pour 70 mètres et tout. Je remonte et à la sortie de l'eau, j'ai toute l'équipe de France devant moi et je leur fais un protocole.
Nickel.
Nickel, style, I am okay, je crie comme ça et tout le monde est choqué. Et là, je me suis dit, ouais. Il y a quelque chose. Et je sais que Guillaume, à ce moment-là, il m'a regardé en mode... Il a rien dit du tout. Il a juste hoché de la tête en disant « Ah ouais, quand même. »
Le petit, il est bon.
Ah ouais.
Et on revient à ton adolescence. Après, on a dévié. Donc, t'es né en 96.
Oui.
C'est un peu la génération des télé-réalités. Est-ce que tu mettais quoi en rentrant de l'école? T'étais plus là-dedans ou MTV, tu regardais ou
tu mettais des documentaires.
Des docus?
Ouais.
Sur quoi?
J'adorais tout ce qui était technique. Du style documentaire sur l'aviation, sur les voitures. Du moment où ça parlait technique, du style... je me souviendrai toujours, je crois que j'avais 12 ans,
ouais.
Je rentrais de l'école et puis j'allais regarder un documentaire sur les moteurs d'avion.
Ouais.
Un moteur d'avion...
À 12 ans?
À 12 ans, ouais. Non mais n'importe quoi. Je me régalais à ça et du coup, j'ai des chiffres que je retiens depuis l'âge de 12 ans.
Genre
Un moteur d'avion, ça aspire 375 mètres cubes seconde et ça pousse 15 tonnes.
J'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Mais...
C'est énorme.
Ouais.
Mais en gros, ça m'a toujours passionné, ça. Et puis la science aussi, la partie un petit peu médicale. Je me régale à travailler avec des médecins, avec des kinés et tout. Ouais. Roland Garros aussi, j'adorais. Alors attention, j'avais pas trop cette connaissance du sport, mais j'aimais bien les échanges, j'aimais bien voir comment les athlètes y jouaient entre eux. Enfin, j'aimais plus le côté personnel et émotionnel qu'ils ressentaient sur le terrain
ouais.
que les que points ou le jeu meilleur. En soi. Exactement.
Et niveau musique, t'écoutais des trucs pareils.
Ouais, ça partait du classique. Au hard metal.
T'étais déjà hyper mature, quoi, d'écouter du classique. Tu
m'as ouais,
des docus sur l'aviation et tout à 12 ans. Moi, j'étais un mongolien, je mangeais des kangous.
Non.
Écoute, enfin, mais je te jure. Et donc, du classique plutôt.
Ouais, j'ai eu pas mal.
T'as pas eu ta période de.
Rap aussi.
Ouais.
Avec IAM, évidemment.
Ouais, Marseillais, forcément.
Voilà. Mais du coup, ce que j'aimais dans le rap. Autour de moi, pas grand monde aimait le rap parce que c'était pas le style musical de ma famille ou de certains amis. Par contre, moi, ce que j'aimais, c'est l'histoire que ça racontait derrière.
J'étais sûr, j'allais dire, c'est les revendications, les
trucs. Non, pas ça.
Il est trop mature. Moi, j'aimais bien parce qu'il y avait des gros mots et
des grosses voitures et des chaînes en or. Non, l'histoire, ça racontait une histoire et puis c'était différent des musiques en anglais que je comprenais pas avant. Chaque année, j'ai une musique dans la tête. Il y a 2 ans de ça, pour mon premier record, c'était Beyrouth de Ibrahim Alouf. Je l'ai écouté énormément de fois.
Et quand tu descends, t'as ça dans la tête ?
Et du coup, comme je l'écoute au moins, je sais, la musique, elle doit durer 6 minutes. Je l'ai écouté 10 fois le matin, en boucle. Le voisin devenait fou. Mais par contre, au moment où j'arrive vers les 90 mètres, où je me dis, pourquoi t'es là, pourquoi tu fais ça, tu fais n'importe quoi, machin,
ouais.
Hop, il y a la musique qui se met en place, et là, je lâche prise complet. Cette musique, c'est vraiment un fil rouge qui me permet de rester lucide, d'éviter d'avoir de l'ivresse de profondeur, et puis donner une dimension un peu musicale sous l'eau. Il faut savoir qu'on l'appelle le monde du silence, mais c'est pas vrai du tout. Le son, il passe 200 fois plus vite que dans l'air.
Mais t'entends une sorte de bruit sourd, quoi, le bruit de la mer, quoi. Enfin, le bruit de
l'océan. Ça dépend. Des fois, t'as un bateau qui passe à la surface, tu l'entends, et des fois, t'as un sous-marin, tu l'entends au fond.
Ah, t'as déjà vu, t'as déjà entendu sous-marin ?
Mais je pense que c'est ça, parce qu'on me l'a confirmé. C'était mon premier 118 mètres à la monopalme. La monopalme, ça te permet d'être plus profond. Du coup, 118 mètres, pour moi, c'était ouf. Tu vois, c'était l'année dernière, je crois.
Ouais, c'est énorme.
Normalement, les bateaux, tu les entends sur les premiers mètres, et plus tu arrives vers les 100 mètres, moins tu entends la chose.
Plus rien, ouais.
Là, à partir de 70 mètres, j'ai commencé à entendre un son, donc c'était pas normal, et plus j'arrivais au fond, plus ça devenait important. Mais c'était un son abominable.
Ouais.
C'est une sorte d'hélice énorme qui tournait en boucle, ça faisait ça devient tellement important que tu sens cette épaisseur dans l'eau. Enfin, je sais pas comment décrire le son, mais tu sens une épaisseur qui devient presque, pas étouffante, mais ça devient costaud. Et là, je me suis dit, attends, c'est quoi ça?
C'est
en plus, c'est énorme, c'est un sous-marin. Du coup, j'ai toujours les yeux ouverts, mais je regardais un peu autour de moi, même si j'ai pas le masque.
Ouais.
Je me dis, tu vois pas, tu tapes un sous-marin et tout, et puis t'es dans un autre monde en bas. Tu t'imagines des trucs, t'es dans un film. Puis j'arrive en bas, je touche le pont, je prends la plaquette, je remonte à la surface, je fais mon protocole, nickel. Puis je m'assois sur le boudin du bateau et je me dis, t'es en train de descendre des profondeurs où il y a peut-être des sous-marins. Et du coup, ça a matérialisé toutes les profondeurs où j'étais allé depuis. Parce que je m'en rendais pas forcément compte avant.
Est-ce que ça,
on
que
voit
ça,
pas le fond, tu sais. On prend 300
noir,
mètres de marge, c'est tout noir, il y a même pas de sable, il y a rien. Et du coup, le fait d'entendre ce son à ce moment-là, c'était au large de Nice, dans la baie de Villefranche. Et plus tard, j'apprendrai qu'il y a une base de sous-marins qui passe souvent là pour sonder les bateaux. Et c'était assez rigolo.
On dit souvent l'ivresse des profondeurs. Concrètement, qu'est-ce que ça te fait quand on dit l'ivresse des profondeurs? C'est quoi les sensations?
C'est la sensation de se lever très vite d'un fauteuil ou d'une chaise.
Ah, et que tu vois tout noir?
Tu vois tout noir, d'un coup, tu as envie de tomber, tu pars dans une autre dimension. Ben, c'est ça, mais x10.
Ouais.
C'est en continu quand tu arrives vers 100 mètres. Parce que tu as des mélanges à l'intérieur des poumons qui sont mis sous pression, qui deviennent toxiques. Et c'est là où intervient l'ivresse des profondeurs. Donc, c'est cette impression de se lever très vite. D'avoir le tournis, mais c'est pas désagréable. Hein.
Peux contrôler ?
Non.
Non, tu contrôles rien.
Il faut pas contrôler parce que, en gros, c'est comme dans
mais
un.
Mais c'est
rêve.
Pas dangereux si tu contrôles pas ?
Ça devient. C'est pas dangereux, c'est des profondeur tellement importante que toute l'expérience que tu as accumulée avec ces profondeurs, bah, du coup, tu as des automatismes que tu mets en place. Donc même si tu as une narcose, une ivresse des profondeurs qui est immense, bah, ton corps il met en place des automatismes et tu vas palmer, tu vas récupérer le tag au fond et tu remontes.
Tu fais ça, ouais, en mode automatique.
Automatisme. En conduite automatique, quoi. Ouais. C'est assez cool. Et du coup, moi, j'ai vécu des ivresses de profondeur où tu réfléchis très vite. T'as une musique d'un côté, t'as des souvenirs de l'autre. Et il faut gérer aussi la profondeur, toute la pression que t'as sur le corps. Ouais. Donc, c'est beaucoup de choses en même temps. Ça a été assimilé à la prise d'acide ou de champignons hallucinogènes. Ah, même ouais. Si j'en ai jamais pris, je me dis, ouais, ça doit être bizarre quand même.
Ça a l'air de bien envoyer, ce truc.
C'est costaud. Et puis, un jour, tu vois, il y a eu une apnée où c'était très long. Généralement, je suis autour des 3 minutes. Là, ça a duré 4 minutes.
Ouais.
Et j'ai eu une ivresse de profondeur tellement importante que je me suis vu palmer en dehors de mon corps. Comme si je me voyais, moi, en train de palmer, mais c'était pas moi.
Enfin, ah ouais.
Et là, oui, je me suis dit...
Comme si t'avais pris des champignons.
C'était pas désagréable, ouais. Mais c'était tellement trop que quand je suis sorti de l'eau, j'ai fait mon protocole, nickel et tout. Tout le monde était content. Mais j'ai même pas souri et je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça que j'aime.
Ouais, et c'est trop fort, quoi.
C'était trop, en fait. Oui, on peut voir des apnéistes qui en parlent beaucoup et tout, qui le fantasment, mais en gros, personne ne descend pour se taper un shoot d'ivresse ouais. De profondeur.
C'est des drogués. Ouais, voilà. Des drogués des profondeurs. Ils se défoncent et tout en descendant sous l'eau.
Parce que c'est trop costaud, trop costaud, quoi.
Ouais. T'as jamais eu peur, justement, parce que tout à l'heure, tu disais... la musique elle t'aide quand t'arrives et que tu te dis oula putain qu'est-ce que je fous là, je suis à 90 mètres. Il y a déjà eu des moments où je sais pas tu paniques, tu prends conscience, tu te dis putain là je suis trop profond, je peux pas pouvoir remonter, j'en sais rien.
L'année dernière à Sharm El Sheikh, je m'entraînais pour mon record du monde.
C'est large de l'Egypte ça?
Au large de l'Egypte et quand je suis arrivé vers les 90 mètres, il y a quelque chose qui m'a poussé. Sauf qu'à ce moment-là, je suis en free fall, donc j'ai mes poumons qui sont comprimés, l'air qu'il y a dedans me fait plus flotter, donc je glisse entre 7 et 6 km heure, c'est assez rapide. Et la moindre chose qui va me toucher, c'est comme si tu touches un mec qui fait du windsuit en l'air, quoi. Il va devoir se remettre en l'air.
Qu'est-ce qui t'a touché?
Ben, je pense que c'est un dauphin. Donc, à ce moment-là, t'es touché, t'es bousculé, mais c'est comme si quelqu'un te poussait, tu sais. Donc j'arrive au fond,
parce
finalement.
Parce que toi, tu descends les yeux fermés, en fait.
Non, les yeux entrouverts.
D'accord, mais tu vois quand même pas grand-chose à ce qui se passe.
Tu vois pas grand-chose, c'est tout bleu. Ouais. Mais surtout sur le côté derrière, donc j'aurais jamais pu comprendre ce que c'était.
Ah
et
ouais.
À ce moment-là, le cerveau, il a pas voulu comprendre. C'était en mode, essaye pas de comprendre parce que tu vas prendre peur. J'arrive en bas, je remonte, et puis je me mets sur la plateforme. Et puis, je sais pas, une trentaine de secondes après, à 2 mètres de moi, les dauphins qui font des saltos.
Pour finir, donc, je vais te demander ton panthéon personnel. Donc, c'est ton livre, ton film culte, un acteur, une actrice, une chanson, un album, une série. Est-ce que tu as un livre culte ou qui t'a marqué ou...
Le Petit Prince, parce que c'est mon premier livre qu'on m'a offert.
Ouais.
Parce que je l'ai relu il y a une semaine et que c'est un livre qui m'a fait pleurer, ouais. Littéralement. Et Vouloir toucher les étoiles de Mike Horn. Parce que c'est un livre que j'ai lu pendant un championnat du monde il y a 2 ans. Et en fait, je me suis tellement mis à sa place, parce que j'ai un gros lien avec la famille et lui aussi, surtout. Mmh. Et à la fin du livre, on apprend que sa femme est morte. Et en gros, moi, je ne m'y attendais pas du tout et je ne le savais pas.
Ah, tu ne connaissais
je
pas.
Je venais juste de découvrir Mike Horn, on m'a offert ce livre et tout. Et du coup, ça a été ultra fort en émotion, mais tant mieux, tu vois, ça m'a apporté le petit plus qui me manquait ce jour-là.
Ton film culte? Ou tu peux me donner.
C'est Il était temps.
Il était temps.
Ouais.
C'est quoi ce... Je connais pas.
C'est une histoire d'un jeune adolescent. Il apprend par son père qu'il peut voyager dans le temps. Il peut revenir dans le temps dans n'importe quel moment. Alors il lui dit ouais mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu me racontes? Il dit ben c'est quoi? Va dans le placard. Tu fermes bien les poings et tu te souviens le moment que tu as envie. Et du coup ça marche. Et tout le long il fait cette histoire et il y a une grosse histoire d'amour et tout. Alors c'est un film.
Ah,
que sur une histoire d'amour. Hein. Et du coup, tout le film, c'est sur ça. Et au final, il se rend compte qu'il n'a plus besoin de voyager dans le temps parce qu'il vit chaque moment.
En fait.
Ouais, il a l'amour, mais surtout, il vit chaque moment comme si c'était unique et comme si c'était positif. Et du coup, ça me rappelle aussi qu'il faut vraiment se concentrer sur le moment présent et prendre du recul tout le temps. Quoi.
Un acteur, l'acteur que tu adores.
Clint Eastwood.
L'acteur et le réalisateur? Les deux ou plus l'acteur
En réalisateur, surtout.
Surtout en réalisateur, ouais.
Ouais. Mm. Et puis en acteur aussi, mais tu vois, dans Grand Torino, il joue super bien. Bon, c'est des grands classiques, mais je sais pas, il a un visage aussi, une profondeur du regard que j'adore. Ouais. Il a un caractère que j'adore. Et puis voilà, il a aussi une histoire familiale. Tu vois, il a transmis à son fils qui est aujourd'hui acteur. Ouais, j'aime beaucoup cet acteur.
Clint Eastwood, pas mal. Une chanson.
Je crois que c'est la Châtémy Cantal. Châtémy Cantal. Alors pourquoi? Parce que bon, tu sais, ça fait énormément de temps que j'ai plus écouté. C'est pas forcément une musique au niveau artistique que je suis fan, tout ça, mais ça me rappelle. C'est une Madeleine de Proust, comme on dit, parce que tous les matins, en allant à l'école avec ma grand-mère en primaire, elle me disait, tu sais, ton oncle, il adore cette musique et tout. Et moi, j'avais compris que mon oncle avait fait cette musique. Et du coup,
tu pensais que c'était la chanson de ton oncle.
J'avais mal compris. Bon, ça avait peut-être été mal expliqué aussi. Et du coup, à chaque fois que j'écoutais cette musique entre copains et tout, mais j'étais super petit.
Tu disais à ton oncle que c'était ton oncle.
C'est mon oncle qui l'a fait et tout, c'est lui qui chante. Et plus tard, on me disait, mais en fait, non, c'est pas ton oncle. Tu as mal compris.
Ah, c'est très bien, très bonne histoire. Super, bah merci beaucoup Arnaud.
Merci
C'était
à toi.
C'était un plaisir. Un
grand plaisir.
Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis fais attention, on va pas trop profondément non plus quoi.
Promis. Merci.
Salut.
Salut.
Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et mettez des petites étoiles si ça vous a plu. Comme ça, on sera mieux référencé et on pourra dépasser l'afterfoot au classement des podcasts. Et ça, c'est méga classe. Merci d'avoir écouté Champion.
It's Owen and Murph here, and we want to talk about the good people at Now who are sponsoring this episode and have some exciting news to tell us about the return of the Formula One season, which kicks off on March 2nd.
Oh, well, this sounds great, but where do I catch all of this high-octane action?
Murph, you can stream all the F1 Sky Sports action without a contract for just €20 a month for 12 months with a Now Sports membership. If Formula One's your game, then Now is the name.
You're really revving my engine, McDevitt.
Ah, pit, stop it with all the puns, Murph.
I saw your Be Good Baker running by again the other day, says I to old Mr. Brennan. Ah, yes, says he. I've never seen her stand still. And she's running rings around the rest of us with our Brennan's Be Good bread. Only 60 calories a slice. 60 calories, says I. That's just the whole meal, is it? No, says he. It's the whole meal, the whole grain and the white. 60 calories a slice and high in fibre, whatever way you slice it. That's why anything baked is better with Brennan's. Today's bread today.